There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Bonjour, bonjour les gens, bonjour le chat. Comment ça va? C'est mercredi, d'habitude je suis là le mardi, mais là maintenant c'est le mercredi et on est à la moitié de la semaine. Voilà, ça fait plaisir. Ça va le chat? Est-ce que les gens sont réveillés ce matin? J'ai pas très bien dormi. Donc je risque d'être un peu éclaté sur ce live, mais c'est pas grave, on va passer un bon moment, plein d'énergie, on va s'amuser, ça va être rigolo. Si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez d'ailleurs avoir la preuve que j'ai très mal dormi, c'est chiant, j'ai publié un tweet à 3h du matin. Mais bref, tout va bien. Nous ne sommes que tolérés dans leur monde, oui bah oui les chats, mercredi ensoleillé après 3 semaines de vent froid et sec, c'est plutôt 3 semaines de soleil et un peu de pluie de temps en temps quoi. Là il a plu ce week-end, ça a fait beaucoup de bien au terrain qui est devant chez moi, qui est en train de reprendre un petit peu de végétation. Ces accros, oui, j'ai peut-être un problème de déconnexion la nuit. Je pense que c'est le fait que mon réflexe, quand je me réveille à 3h du matin, soit d'aller sur Twitter, est peut-être pas forcément un très bon réflexe à avoir. Donc, on a eu du soleil, mais 50 km/h au bord de la Manche, ça caille. Oui, non, mais... Oui. Ah, bah, ouais, non, mais moi, tu sais, Paris, c'est déjà le Grand Nord, hein, pour... C'est déjà, c'est au-delà du mur par rapport à... On est déjà au-delà du mur hein, quand on est à Paris. Même si, du coup, à cause du réchauffement climatique, maintenant à Paris, il fait bon. Alors figurez-vous qu'on va parler d'actualité, car c'est le but de cette matinale tech. Mais il n'y a pas non plus, on ne croule pas sous l'actualité. On va aller peut-être consulter quelques articles, on va peut-être parler des sujets qui vous... intéresse. Ah là là, qu'est-ce que je fais ça bien. Je suis streamer professionnel. Bonjour. Non, je ne suis pas streamer professionnel, mais je stream de temps en temps. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Alors, je pense que j'ai envie de parler. Je pense que je vais parler de ce dont j'ai envie de parler, car voilà. Ce qui est exactement l'inverse de ce que je viens de dire vis-à-vis de vous, mais c'est pas grave, on va garder ça comme ça. On va parler, je pense, de Xbox, Activision, tout ça, parce qu'il y a du grabuge qui se passe. On peut parler du Fold 5 aussi, on peut. On va parler d'Apple un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Oui, bon, on verra. Mais bref, on a de belles choses à la limite dont on peut discuter, même s'il n'y a pas une actualité très forte qui emporte tout le reste. Il n'y a pas eu de breaking news, si ce n'est à la limite aux États-Unis. Je vais commencer par ça. Je vais présenter un petit peu les derniers épisodes, histoire d'avoir quelque chose sur ce live Twitch. Et puis après, on parlera. Ça laisse le temps aussi aux gens d'arriver. Et après, on pourra parler d'autres sujets, peut-être du Fold 5, du coup, justement. Alors, je vais passer en partage d'écran et en partage d'écran plus 7. Waouh! Waouh! Voilà, comme ça vous êtes encore à l'écran, le chat. Alors, voyons, Activision Blizzard, voilà, dernier rebondissement. C'est passé en deux temps, il y avait une news hier aussi sur le sujet. Je vais essayer de faire ça rapidement, tout en étant très clair. Alors, il était une fois Microsoft qui rachetait Activision Blizzard, enfin qui essayait de racheter Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars. Ça, c'était en janvier 2022. Depuis, ils ont dû faire valider leur rachat par les autorités de la concurrence. Ça a été bloqué complètement au Royaume-Uni, ça a été validé dans l'Union Européenne, ça a été validé en Chine, et ça a été, neutre aux États-Unis, puisque la FTC qui s'en charge n'a pas le pouvoir de bloquer, mais souhaite bloquer. Donc du coup, on n'a pas la conclusion pour l'instant pour les États-Unis, mais on a celle du Royaume-Uni, puisque la CMA au Royaume-Uni a bien le pouvoir de blocage, donc eux, ils ont bloqué. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est. Il y a Microsoft, comme le Royaume-Uni a bloqué, Microsoft, ils ont décidé de faire appel. ça, c'était il y a quelques semaines. Donc, ils sont dans leur procédure d'appel. Et pour l'instant, des premiers échos qu'on a, parce qu'on peut suivre en plus les audiences en direct, le juge britannique a l'air quand même de pencher plutôt en la faveur de Microsoft. Du coup, il y a une rumeur qui a commencé à monter en pression, qui est que Microsoft réfléchissait à valider son rachat, malgré les décisions des autorités. Ils allaient consommer le rachat, c'est-à-dire absorber Activision Blizzard, valider le contrat. Contrat qui expire le 18 juillet, c'est en juillet, j'ai un doute sur la date. Où est-ce que je l'ai mis? J'en ai parlé dans cette news-là, j'en suis sûr, c'est celle de ce matin. Ah tiens, j'ai Edge qui plante, je n'arrive plus à passer d'un onglet à l'autre, c'est sympa ça. Hop là, c'était le 18 juillet. Donc le contrat que Microsoft et Activision Blizzard ont signé concernant le rachat en janvier 2022, il expire le 18 juillet 2023. Soit Microsoft arrive à faire valider son rachat avant, spoiler alert, maintenant c'est mort, soit Microsoft doit renégocier ce contrat parce que sinon le contrat de rachat expire, et si le contrat de rachat expire, Activision Blizzard n'est plus à vendre et Microsoft doit payer 3 milliards de dollars de frais. Donc autant vous dire que Microsoft a tout intérêt à renégocier, donc ça va probablement avoir lieu d'ici au 18 juillet. La renégociation, ça peut être aussi simple que on est d'accord pour continuer le projet de rachat et on garde tout le contrat au même titre et on prolonge juste la deadline de un an ou deux pour les affaires juridiques et puis hop, c'est bon quoi. Ça peut être juste ça, hein. Ça, c'est pas obligatoirement un truc à grands frais, mais ça peut aussi être Activision Blizzard qui décide que finalement ils vendront plus cher, ou qu'au contraire Microsoft, vu que c'est compliqué, ils disent que finalement le prix ça vaut peut-être moins que ce qu'ils avaient prévu, donc il peut y avoir renégociation. Mais donc il y avait cette rumeur grandissante de l'idée que Microsoft, avant cette deadline du 18 juillet, allait absorber Activision Blizzard, et allait notamment complètement ignorer la décision du Royaume-Uni, peut-être en se coupant du Royaume-Uni, en jouant le jeu peut-être du procès au Royaume-Uni, etc. Donc bref, il y avait peut-être cette idée que Microsoft allait accélérer son calendrier et valider le rachat. Donc comme je l'ai dit au début, côté américain, la FTC n'a pas le pouvoir de bloquer. La FTC a seulement porté plainte devant les tribunaux, et la procédure, c'était pendant l'été, le procès allait avoir lieu devant le tribunal administratif, mais même là encore, il n'y avait pas de blocage du rachat. Il se trouve que, devant la crainte que Microsoft accélère ce calendrier, la FTC a décidé de porter l'affaire et d'accélérer son processus et de porter l'affaire devant un tribunal fédéral. Cette fois, le tribunal fédéral, lui, il a le pouvoir de bloquer le rachat, il a un peu le pouvoir qu'il veut, parce que enfin, un tribunal fédéral, c'est sérieux aux États-Unis. Et donc, ils ont demandé une injonction d'urgence pour empêcher Microsoft de valider son rachat. Injonction qui a été déposée, du coup, hier et qui a été validée dans la nuit, là. Ils ont obtenu une injonction temporaire. En gros, le juge a dit « Ok, il y a une affaire sur mon bureau. Tant que j'ai pas jugé cette affaire, il n'y a pas de rachat qui a lieu. Vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, Microsoft. » Donc du coup, le rachat est suspendu tant que le juge n'a pas rendu sa décision. Ce qui, d'après Microsoft, est plutôt une bonne nouvelle parce que ça accélère leur calendrier et ça joue dans leur jeu, en fait. Faut comprendre que le processus classique, et je pense que ça va être plus clair que si je le dis comme ça, le processus classique, c'était la FTC est pas contente, la FTC porte plainte devant son tribunal administratif, il y a un premier jugement au tribunal administratif, peu importe le jugement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, si c'est validé, la FTC fait appel, si c'est pas validé, c'est Microsoft qui fait appel. Et dans les deux cas, ça finit devant un tribunal fédéral. En accélérant le processus, du coup, là, on passe directement à l'étape procès au fédéral et on squeeze complètement l'étape du procès de la FTC. Donc, Microsoft, en gros, vient de gagner plusieurs mois potentiellement sur leur processus d'acquisition. Donc, c'est tout bénef pour eux. Maintenant, les enjeux commencent, les vraies choses commencent, puisqu'il va falloir valider le rachat, il va falloir aller batailler dans les tribunaux pendant tout l'été pour essayer de faire valider ce truc. Donc là, il y a deux fronts qui sont en train de se jouer. Ça va être vraiment les clés pour les prochaines semaines, prochains mois. C'est le front du Royaume-Uni et le front des États-Unis. Dans les deux cas, il y a un vrai procès qui commence maintenant et dans lequel Microsoft va pouvoir mettre son armée d'avocats dans la bataille. D'après tous les analystes que j'ai lus, ou la plupart en tout cas des analystes que j'ai vus et lus sur le dossier, le dossier de la FTC aux États-Unis, il est quand même assez faible. D'autant qu'il y a un précédent, il y a le fait que c'est exactement le même processus qu'a suivi la FTC contre le rachat de Weezin par Meta. Et la FTC a perdu son injonction au fédéral. Et Meta a pu racheter Weezin. Donc il y a des chances que ce qui s'est passé auparavant se répète et que Microsoft obtienne gain de cause aux États-Unis. Et d'après un cabinet d'analyse dans la nuit aussi, là, de hier à aujourd'hui, d'après un cabinet d'analyse britannique, il trouve que le vent est en train de tourner aussi en la faveur de Microsoft côté Royaume-Uni. Donc à l'heure actuelle, le rachat est bloqué. Il est bloqué aux États-Unis, il est bloqué au Royaume-Uni. Donc on est dans une sorte d'impasse pour Microsoft. Et en même temps, Microsoft semble avoir le vent en poupe côté juridique, côté tribunal. Donc tout ça va se décanter dans les semaines à venir, ça va être un petit peu le feuilleton de l'été. Mais c'était important de faire un petit point là-dessus. Donc c'est pas encore maintenant que Diablo va arriver dans le Game Pass. Et du coup la question est posée de pourquoi acheter Blizzard. Ce qu'ils essaient de racheter, c'est le groupe Activision Blizzard King, qui est un énorme groupe, et donc vous demandez pourquoi acheter Blizzard, ben en fait ils veulent racheter vraiment tout le groupe, il y a plusieurs intérêts pour ça. Alors évidemment, donc, l'intérêt global c'est, comme le dit le chat, pour la moula, mais plus précisément, il y a pour Activision, c'est Call of Duty, et ça peut être très important sur le marché de la console de jeu. Ensuite, pour Blizzard, l'intérêt c'est plutôt Diablo et World of Warcraft, et là l'intérêt c'est plutôt le marché du PC, sur lequel Microsoft a du mal à concurrencer Steam, et donc potentiellement ça peut vraiment les aider de ingurgiter Battle.net en fait dans le PC Game Pass, et d'avoir une sorte de synergie entre Overwatch, Diablo, World of Warcraft et leur abonnement, et que tout ça soit un peu en dehors de Steam. Donc il y a matière à créer une sorte de poids fort du jeu PC qui soit pas Steam, ce qu'essaye de faire aussi Epic Games par exemple. Et le troisième larron qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est King, qui est l'éditeur de Candy Crush Saga sur mobile, et Microsoft insiste pour dire que c'est pas du tout anodin, c'est aussi l'un des objectifs de ce rachat, c'est se créer une place forte sur mobile, et notamment être en capacité de créer peut-être un App Store alternatif à l'App Store d'Apple ou au Play Store de Google, et de créer une sorte de boutique de jeux vidéo sur mobile, dans lequel on pourrait retrouver Candy Crush, on pourrait aussi retrouver Hearthstone du rachat, et on a aussi d'autres jeux autour de Fallout et compagnie qui étaient disponibles et qui appartiennent déjà à l'écurie Xbox. Il y a aussi d'autres jeux type Solidaire et tout ça que Microsoft pousse. Mine de rien, en alignant un peu tous les jeux mobiles qui sont un peu qui sont aujourd'hui dans l'escarcelle de Microsoft, il y a moyen de proposer peut-être quelque chose d'intéressant et d'essayer d'aller concurrencer Apple et Google. Ça tombe bien, c'est le sujet d'une autre news, comme quoi la transition est toute trouvée, puisque l'Union européenne va obliger Apple et Android à intégrer une alternative, la possibilité vraiment de mettre une alternative à l'App Store. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je retrouve ma phrase, excusez-moi. Donc l'Union européenne qui veut forcer du coup Apple et Google à vraiment pouvoir laisser la possibilité aux utilisateurs d'installer des app stores alternatifs, de pouvoir sideload des applications. Ça concerne Android, mais Android est déjà un peu ouvert. Le vrai changement, ça va surtout être pour iOS d'Apple, et donc une obligation européenne qui devrait arriver donc d'ici mars 2024. Donc du coup, il y a quand même des chances que dans les mois à venir, du coup, Apple doive se mettre en conformité avec cette future réglementation européenne pour autoriser les gens à installer des applications qui ne sont pas proposées dans l'App Store. Et donc vous comprenez que si vous voyez à peu près à quoi ressemble l'écosystème fermé d'Apple, vous voyez bien que c'est quand même un sacré changement de paradigme. Et normalement, ça devrait être intégré à iOS 17, la prochaine version d'iOS. Or, iOS 17 a été présenté à la WWDC et il n'y avait absolument aucune trace dans les nouveautés d'une capacité à ouvrir l'App Store ou à installer des applications alternatives. Sachant que nous, pour le coup, on a un article qui va être publié probablement aujourd'hui, je ne sais pas. On a testé iOS 17 pendant quelques jours Ça fait quelques jours que j'ai iOS 17 sur mon téléphone et donc j'ai pu commencer à le tester. Donc il n'y a effectivement pas du tout la fonction de sideloading dessus. Et donc on a posé la question c'est John Gruber plus précisément qui a posé la question à Craig Federighi qui est le responsable du logiciel chez Apple. Donc c'est vraiment le patron du logiciel, hein. C'est le monsieur que l'on voit ici qui quand même a une classe incarnée assez incroyable. Il me fait vraiment marrer Craig Federighi chez Apple. C'est le seul cadre d'Apple qui arrive à me faire rire pendant les conférences et qui présente plutôt bien ses produits. Il ferait bien de ne pas s'en séparer. D'ailleurs, il peut pas s'empêcher. Quoi. Donc il y a un extrait vidéo de l'interview et il peut pas s'empêcher de faire marrer la salle et de faire des blagues. Notamment quand du coup le journaliste lui pose la question de savoir si qu'en est-il du sideloading sur iOS vis-à-vis du fait que l'Union européenne va obliger iOS et Android à s'y conformer et il explique que pour Android de toute façon c'est pas la bonne pièce, c'est pas la bonne personne à qui demander, on n'est pas dans la bonne pièce pour concernant Android. Évidemment il dit ça devant un parterre de fans d'Apple donc ça fait beaucoup rire donc du coup il répond après évidemment beaucoup plus sérieusement sur le sujet et c'est pour dire que écoutez, on sera obligé de suivre ce que l'Union européenne nous dictera de faire. Mais en gros, on comprend qu'ils sont en négociation avec l'Union européenne autour de cette question-là pour savoir comment exactement implémenter. Alors, eux, ils disent qu'ils veulent négocier avec l'Union européenne pour vraiment nous assurer que nous faisons ce qui est bon pour nos clients et leur sécurité et de vraiment comment faire pour être conforme à la réglementation tout en étant le plus sécurisé possible. La traduction Apple français, c'est on est en train de comprendre avec nos avocats comment on peut intégrer ça en faisant le moins possible, en le cachant le plus possible dans les menus pour être conforme à la réglementation, mais en même temps mettre le moins possible en avant le fait qu'il y a une alternative à l'App Store, parce que l'App Store, c'est une incroyable manne financière pour Apple. L'App Store, c'est les 30% sur les applications et les jeux payants, c'est les 30% aussi sur les abonnements payants intégrés aux applications, c'est de la publicité, c'est pas mal de choses, et c'est une manne financière assez énorme pour Apple. Donc ils veulent absolument pas mettre ça en danger. C'est vraiment des milliards de dollars, hein. C'est vraiment assez énorme pour Apple. Il faut absolument pour eux préserver ça. Et pour préserver ça, il faut absolument pas que tu puisses, par exemple, installer Netflix sans passer par l'App Store, ce qui permettrait à Netflix de te proposer un abonnement sans payer les 30% à Apple, par exemple. On peut imaginer ce genre de choses. Donc il faut trouver les bonnes parades pour faire en sorte que enfin, Apple essaie de trouver les bonnes parades pour garder son écosystème le plus fermé possible tout en se soumettant à la réglementation européenne, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre non plus de ne plus commercialiser leurs produits en Europe. On reste quand même un énorme marché. Donc on verra d'ici mars 2024 comment ils intègrent ça. Il y a aussi des chances que du coup Apple n'annonce jamais cette possibilité, qu'elle se retrouve simplement à travers une bêta, une mise à jour, un patch, que ça se retrouve être une des possibilités de l'iPhone dans les prochains mois. Ça risque aussi d'être une exclusivité de l'Union européenne, du coup. Si vous achetez un iPhone aux États-Unis, par exemple, vous risquez de ne pas avoir cette fonctionnalité-là. Donc peut-être que les iPhones européens vont d'un coup très bien s'exporter à l'étranger. Peut-être que les gens chercheront à importer des iPhones de l'Europe. Si vous prenez le live en cours, j'ai pas très bien dormi, je suis désolé pour mes bâillements. Je suis un peu éclaté. Tiens donc, hop là. Alors, et de l'autre côté, alors c'est Huawei, j'imagine que tu voulais dire. Parce que Huawei, ça, du coup, ça, on dirait c'est un peu la version Wish de Hawaii. C'est l'île de Huawei. Huawei semble se faire interdire l'Europe et la 5G. J'ai pas vu passer ça, mais on a des news de Huawei par contre. C'est vis-à-vis de l'Apple Vision Pro, pour rester un peu dans le monde d'Apple. Je plaisante, c'est rigolo comme faute, je trouve. Je fais moi-même des fautes de frappe.
Ok, pas de soucis.
Oh là là. Huawei, j'ai du nouveau quand même à vous proposer. C'est du côté d'Apple, puisque figurez-vous que Vision Pro, le fameux casque de réalité mixte d'Apple, ou de réalité augmentée, c'est comme on veut, figurez-vous que le nom Vision Pro, il appartient à Huawei. Alors, il appartient à Huawei en Chine. Le nouveau casque de réalité mixte d'Apple, le Vision Pro, rencontre déjà des défis juridiques avant son lancement. Huawei, un géant technologique chinois, possède la marque déposée du terme Vision en Chine, qui pourrait poser un problème pour la vente du produit d'Apple dans ce pays. J'ai bugué parce que y avait posé deux fois, c'était déposé et puis posé. Huawei produit également les Huawei Vision Glass, un produit similaire. Donc ce qui va se passer, on nous propose solution de ne pas le vendre en Chine. Ah, petit plaisantin. Non, on va pas se passer d'un marché avec plus d'un milliard de personnes dessus. Donc évidemment que Apple va vouloir vendre son... Enfin, après, normalement, dans un premier temps, de toute façon, il va être vendu qu'aux États-Unis. Donc ils ont un peu de temps. Après, j'ai des anecdotes, vous posez déjà des questions. Mais oui, voilà, pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis. Donc ils ont un petit peu de temps avant le lancement en Chine. Mais le lancement en Chine, vous inquiétez pas qu'il aura bien lieu en même temps que le lancement en Europe, etc. Donc ça va finir par arriver. Mais à mon avis, ce qui va se passer, c'est surtout que Apple va devoir changer le nom de son produit en Chine. Il s'appellera Apple Vision Pro partout, et en Chine, il s'appellera peut-être Apple Reality, le fameux Apple Reality Pro, c'était peut-être pour cette raison-là aussi. Donc en un clin d'œil, le nouveau casque est en danger. Un conflit de marque avec Huawei, le géant chinois de la technologie. Donc le nom est déjà déposé, il est déposé en Chine, devant, voilà, donc on sait que la propriété intellectuelle en Chine, on sait que c'est très important, évidemment. Donc il s'est déposé en Chine, et on n'a jamais vu de clone ou de produit fait en Chine qui ne respecterait pas la propriété intellectuelle, évidemment. Ça ne s'est jamais vu. La situation se complique davantage lorsqu'on considère que Huawei vend déjà un produit connex, les Huawei Vision Glass. Alors ça, c'est très important parce qu'effectivement, souvent dans le droit des marques, il faut que c'est bien de déposer une marque, mais il faut que tu l'utilises activement et qu'on puisse... Il faut aussi que tu puisses justifier qu'on peut confondre ton produit avec le produit que le concurrent est en train de nommer de la même façon. Donc là, en l'occurrence, Huawei Vision et Apple Vision Pro, pour le coup, Huawei est 100% dans son droit pour dire que Apple est en train d'exagérer à reprendre son nom. Parce qu'il y a vraiment possibilité qu'un acheteur intéressé confonde les Huawei Vision et Apple Vision, si les deux produits portent le même nom. Ça peut poser problème, même si Vision est un nom commun. Pour le coup, Huawei est vraiment dans son droit, c'est assez légitime de leur part. Si ça pose problème. Alors évidemment, c'est vrai qu'il y a aussi une autre solution, c'est que Apple pourrait juste négocier un accord avec Huawei, donc payer pour utiliser le nom. Mais bon, voilà, ça paraît peut-être peu probable en l'état. Et donc, moi, je pense que la vraie solution, c'est surtout qu'ils vont changer le nom pour la Chine, pour le seul marché chinois, ils vont changer le nom et ils vont passer sur un autre nom qu'ils ont déposé, type Apple Reality.
Apple Reality.
Il faut qu'à appeler le casque d'ours pour la Chine. Non, mais alors, par contre, donc tu demandais tout à l'heure, les mecs n'ont pas vérifié avant, vérifié quoi ? Alors, probablement qu'ils ont vérifié avant. Alors, est-ce qu'ils sont passés à côté et que c'est une erreur ? Ou alors, s'ils avaient prévu ça et ils savent très bien ce qu'ils vont faire pour la Chine le jour où ils l'annonceront pour la Chine, on ne peut pas trop savoir. Mais oui, sachez que quand une marque doit lancer un nouveau produit, c'est vraiment, vraiment très, très compliqué avant de pouvoir le nommer correctement. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, ils utilisent des noms de code en interne. C'est pas que pour éviter les fuites, c'est aussi pour des questions de marque, justement, parce qu'il y a vraiment des départements juridiques entiers dont c'est la spécialité d'aller vérifier qu'une marque est bien libre partout dans le monde, que tu vas bien pouvoir lancer ton produit. Je sais que du côté de Microsoft, par exemple, pour Cortana, ça avait posé question, justement, quand il avait fallu nommer l'assistante vocale de Microsoft, ils étaient partis sur plusieurs noms. Et alors Cortana avait séduit pas mal des fans, justement, c'était le nom de code du projet, et les gens trouvaient ça vraiment cool que l'assistant s'appelle Cortana, et donc ils ont gardé ce nom qui de plus était déjà déposé par Microsoft, hein, qui était déjà utilisé, etc. Donc c'était plus facile pour la paperasse. Mais pour un autre nom, par exemple, le navigateur de Microsoft, ça a été très compliqué pendant longtemps. Donc ils avaient Internet Explorer, et après ils savaient qu'ils voulaient changer le nom de leur marque de navigateur. Ils voulaient abandonner Internet Explorer pour lui donner un coup de frais et trouver un nouveau nom. Et le projet, c'était Project Spartan. Ça, c'était le nom de code du navigateur. Et avant d'arriver à Edge, en fait, enfin, le nom Edge, il a fallu vraiment longtemps vérifier qu'ils allaient être vraiment en capacité de pouvoir l'utiliser partout. Et ils avaient vraiment une armée d'avocats pour vérifier que Edge, c'était OK, quoi. Et donc, c'est vraiment très, très complexe de gérer ce genre de situation. Il faut vraiment imaginer que voilà, vous avez plein de pays potentiels, plein de concurrents potentiels qui peuvent n'exister que dans certains pays. Donc quand vous lancez un produit international, c'est très complexe comme situation. Et après, évidemment, il y a aussi la question de à quoi ressemble le nom du produit dans le pays dans lequel vous le lancez. Il y a des noms des fois qui sont un petit peu malencontreux, on va dire, en France. D'ailleurs, vous avez l'exemple, est-ce que je peux, je repasse en Facecam plus chat, est-ce que je peux vous retrouver ce magnifique, attendez, j'ai un exemple qui date très précisément d'aujourd'hui même. Hop, c'est un produit Logitech, vous l'avez peut-être vu passer, clac, c'est Logitech qui lance Collabos, Collabos ou Collabo, je ne sais pas comment vous voulez le prendre, visiblement c'est Collabos, mais bon, leur système de collaboration vidéo. Et bon, bah, quand on est français ou francophone, collabo, c'est un peu curieux comme nom. Alors, on comprend que c'est collabos, hein, pour faire collaboration. Parce que collaboration, c'est un terme, surtout en anglais, c'est pas un terme qu'ils connaissaient du tout, et c'est un terme qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire collaborer entre collègues de travail, etc., quoi. Mais c'est vrai qu'en français c'est quand même assez rigolo. Donc voilà, nommer un produit, c'est pas simple du tout, quoi. C'est pas simple du tout. Mais du coup, donc on verra ce que Apple choisit de faire. Peut-être que ça se trouve, ils vont complètement changer le nom de leur produit partout dans le monde. Non, je pense vraiment pas. Je pense qu'ils trouveront 1000 solutions s'ils doivent racheter Huawei pour racheter Huawei, vu l'argent qu'a Apple en stock. Vraiment, ils ont 1000 solutions avant de se dire qu'ils abandonnent leur casque ou qu'ils changent le nom du casque, hein, honnêtement. Le français est très marginal. Non, quand même, c'est une langue assez parlée dans le monde. Surtout pour Logitech, qui est basé en Suisse. C'est quand même... Est-ce que c'est la troisième langue du monde ? En tout cas, c'est dans le top, peut-être dans le top 5, facilement, à côté de l'anglais, de l'espagnol et du mandarin, quoi. Le français est quand même pas loin, surtout en termes... Comme toujours, c'est un peu comme l'anglais. C'est pas tant qu'il est très parlé dans un pays, ce qui serait le cas du mandarin pour la Chine. C'est surtout le fait qu'il est réparti dans le monde, quoi. Grâce à notre merveilleuse l'arabe sans doute aussi, mais c'est grâce à notre merveilleuse histoire de la colonisation, évidemment. Voilà. Mais on va peut-être pas rentrer dans ce sujet-là sur ce live. Mais du coup, ça, de fait, c'est un héritage de la colonisation, le fait que le français soit quand même assez populaire partout dans le monde. En tout cas, soit pour parler partout dans le monde. Populaire, je ne sais pas, mais parler partout dans le monde, oui. Ça fait partie des héritages. Wendigo nous dit qu'il faut qu'on reprenne les articles à zéro. Alors Wendigo, du coup, on va commencer par Activision Blizzard, le fait que les États-Unis bloquent le rachat. Et après, on a parlé de iOS. Alors, si, pour faire un résumé des épisodes, on a parlé de iOS 17 et des premières réponses d'Apple autour du fait qu'ils vont devoir ouvrir leur App Store à la concurrence. Et on a parlé de l'Apple Vision Pro qui est un petit peu bloqué en Chine, mais pas vraiment. Voilà. Le français est 5e au classement mondial. Bon, bah voilà. On a la réponse égalité avec l'arabe. Et bien, écoutez, voilà. Et j'en profite pour dire merci. J'en profite pour dire merci à tous les followers, puisqu'on est en train de parler du français. C'est le moment de parler des followers. Merci pour les follow avec NoWis209, Childish, Sanjip, voilà, et MrTaco02, tout ça. Merci pour les follow à la chaîne. Vous êtes quand même pas mal, hein, maintenant, à suivre la chaîne Twitch, hein, et à être là dans le chat et tout quand on fait des matinales. Ça fait plaisir. Petit à petit, jour après jour, heure après heure, on crée quelque chose, on crée du lien, on crée une communauté, n'est-ce pas, avec bien sûr une collaboration entre le chat et le streamer, et on fait du reach et du je sais pas trouver les mots, voilà, et comment on appelle ça, de l'engagement, voilà, je génère de l'engagement fort avec le chat quand je fais mes matinales, et ça, je suis content, évidemment. N'hésitez pas à générer de l'engagement dans le chat, hein, un maximum d'engagement, n'hésitez pas à nous follow, évidemment. voire même à vous abonner avec Prime, bien sûr. Même si on, en vrai, on cherche pas trop pour l'instant les abos payants. C'est pas trop notre modèle économique. Donc, si vous avez un abonnement Prime, vous pouvez peut-être le lâcher sur un plus petit streamer qui n'est pas une entreprise. Et en faux, vous cherchez, qu'est-ce que j'ai dit ? Générer de l'engagement, le terme tellement court. Ah bah écoute, voilà. Après, je vais retourner aller optimiser mes articles pour le SEO, évidemment. Et créer des accroches sur les réseaux sociaux qui vont générer un maximum d'engagement. Faut que ça clique. Faut que ça clique un max. Et faut que ça retweet. Faut que ça commente. Faut que les gens se sentent. Voilà. Faut faire de la hot take sur Twitter. Et voilà, créer de l'interaction, de la proximité. Voilà, je ne sais plus quoi. Là, je crois que j'ai vraiment tout dépensé. Bizarrement, visiblement, je ne sais pas, j'ai pas l'air de vous convaincre que du drama. Mais oui, voilà, mais du drama, voilà. J'aurais dû, mais je pense qu'on pourrait s'entraîner. Je pense qu'ensemble, on pourrait faire un matin peut-être un exercice collectif de trouver des meilleurs titres que les miens. Parce que souvent, c'est moi qui écris les news le matin. Et donc, par exemple, à la place de qu'est-ce que j'ai mis ? À la place de Activision, Microsoft, un juge américain bloque le rachat. Le point sur la situation, quoi, qui est un peu voilà, un peu froid, un peu factuel. On pourrait peut-être mettre. Rachat d'Activision, rachat monstre d'Activision Blizzard, Microsoft est dans la sauce, les États-Unis contre-attaquent, Activision va-t-il mettre la clé sous la porte ? Je ne sais pas. Voilà. Bon, c'est un peu trop long, mais il y a peut-être quelque chose à trouver. Voilà. Faut y aller plus fort, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? iOS 17, Apple tempère les attentes autour des alternatives à l'App Store et du sideloading d'applications. On pourrait titrer un petit truc du genre iOS 17, Apple sera-t-il illégal en Europe ? Voilà. L'iPhone sera-t-il illégal en Europe ? Apple ne le contrôle. faut pas mentir non plus dans le titre quand même, mais. Ouais, qu'est-ce qu'on peut trouver de cliquant Apple, un pied dans la tombe, l'UE prêt à interdire l'iPhone, drama, voilà. Est-ce que Omar va devenir le rédacteur-chef ? Exactement. Alors pour l'instant, il est en congé, mais alors officiellement, il est en congé. Peut-être que c'est juste Manu qui a réussi à l'écarter de la rédaction, je ne sais pas. Mais Apple, c'est la fin, voilà, exactement. Apple, bientôt la fin en Europe pour l'intégration. Je ne sais pas, voilà. C'est bien. Je pense qu'on fera des ateliers, peut-être les prochaines fois où je fais des matinales, on fera des ateliers et... non. J'avais bien de quoi prendre le message de Tito. on va parler... Alors, de quoi on peut parler ? On va parler de... Il y a une mauvaise nouvelle pour OneMove, c'est pas drôle, on va en parler. Officialisé en mai 2023, je vais arrêter de regarder le chat. Officialisé en mai 2023, le OneMove S4 et X4 avaient fait leur petit effort grâce à un prix plus raisonnable, 2198 €. Sauf que ce tarif, j'arrive pas à lire. Sauf que ce tarif n'avait pas vocation à rester tel quel, puisqu'il s'agissait d'un prix de lancement amené à augmenter en juin, et donc c'est triste. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle, arrête de rire, ça devient trop cher. Alors, du coup, voilà. Donc, OneMove, ils ont des problèmes financiers. Ils ont visiblement, donc voilà, ils sont quand même dans une tourmente financière. Donc, ils tentent de se relancer. Et c'est pour ça que, voilà, elle est en train de renouveler son catalogue avec l'arrivée des OneMove S4 et X4. Donc, c'est arrivé en mai dernier. Donc, il y avait un prix de lancement. Avec un prix d'appel voilà, de 2190, c'est quand même très précis, 2198 €. Ça pourrait être 2200 €, ça peut être 2199 €. Donc c'est 2198 €. Donc avec quelques concessions, mais du coup, donc surtout, ce prix officiel, voilà, ce tarif officiel n'était en effet pas le tarif définitif, mais un prix d'appel amené à augmenter. Pour que j'arrête de regarder le chat, nous apprend Clean Rider, donc qui est la source de cette information. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le site officiel de la société Batav. Attends, quoi ? C'est quel... comment on dit ? Du coup, c'est pour dire... Enfin, c'est de quoi ? C'est de quelle ville ? Enfin, je connais pas bien le terme. Mais très bien. Bon, bref, la société Batav, pour lire le message suivant. Le prix de lancement prend fin bientôt. Commandez avant le 26 juin pour bénéficier du prix. C'est dur les matins sans vrai news, mais non. Et donc, effectivement, voilà, donc le prix de lancement va se terminer. Donc, on était à 2198 €, on a dit, c'est ça, hein, 2198 €. Et là, on va passer à 2348 euros quand même. Donc, une petite augmentation de 150 euros. Donc, du coup, si on est intéressé par les vannes bouffe, c'est peut-être le moment de pas laisser filer le truc. Et merci à Bika pour le follow. Ouais, c'est marrant, regardez, c'est l'article que je viens de lire. Il est là aussi, parce qu'on voit, en fait, c'est ma vidéo. Bref. Donc, pas forcément une très bonne nouvelle. C'est compliqué en plus pour une société qui est un peu dans le mal d'augmenter ses prix. Ça va pas forcément. Ah, merci, quelqu'un qui a fait la recherche que je voulais faire. Adjectif et non vieilli ou par plaisanterie des Pays-Bas. Batav, très bien.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Écoute, c'est un petit peu de quelque chose de désuet, c'est pas mal. C'est pas mal. Yo Kassim, du nouveau au sujet de. C'est au sujet d'une perte de connexion internet, visiblement. Il n'a pas le temps de poser la question. Non, vas-y, dis-moi. Au sujet d'Activision, on en a parlé en début d'émission, le TLDR, c'est que le rachat est complètement bloqué désormais aux États-Unis tant que le procès n'aura pas eu lieu. C'est bloqué au Royaume-Uni et aux États-Unis, donc là pour le coup Microsoft ne doit plus faire les idiots. Et donc les prochaines échéances, c'est d'un côté la renégociation avec Activision Blizzard pour pouvoir prolonger le contrat qui expire en juillet, et de l'autre les deux procès au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les deux procès que Microsoft a des chances quand même de gagner dans les deux cas. Rien n'est fait, mais en l'état, le rachat est bloqué pour le coup, pour de vrai. Voilà. Waouh, quel résumé incroyable et concis de ma part. Je me surprends moi-même. Voilà. Et je me jette des fleurs. Alors, la petite info que vous allez peut-être voir passer sur les réseaux sociaux, parce que moi je l'ai déjà vu passer, c'est cette question de bloquer l'enregistrement en vidéo des concerts. Cette notification sur iPhone qui serait apparue, en tout cas c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. L'appareil photo est temporairement bloqué. Vous avez déjà enregistré 32 minutes de concert. Vaut mieux profiter du spectacle. Ça suscite rapidement, donc évidemment, la controverse à cause de la question de savoir si on a bien, c'est vraiment bien amené. Apple avait visiblement déposé un brevet pour effectivement être capable de détecter des concerts. Alors, il se trouve que la source, elle est connue pour rapidement. Elle est connue pour régulièrement poster des captures d'écran de fausses fonctionnalités, donc c'est pas forcément à prendre, c'est faut vraiment le prendre avec des pincettes et pas trop sauter dedans. Il y a des chances que ce soit faux, il y a quand même plus de chances que ce soit faux que ce soit vrai. Après, moi j'ai envie de me poser la question de savoir si c'était vrai, est-ce que ce serait un si grand problème que ça. En fait, faudrait pas que ce soit bloqué. C'est vrai que l'info, je l'ai vu passer, je l'ai vu un peu faire le tour des réseaux sociaux, donc je pense que c'est bien qu'on puisse s'en emparer et dire que c'est pas forcément. Faut faire attention, c'est pas forcément vrai. Même si on n'a pas la preuve définitive que c'est faux non plus. Faudra attendre de voir dans les bêtas de iOS 17. Moi, j'ai pas filmé un concert pendant plus de 32 minutes, donc c'est difficile à savoir. Je pense que l'idée de suggérer de profiter du concert, ça peut être rigolo de dire quand même t'es en train de filmer mon concert, tu peux peut-être essayer d'en profiter plutôt que juste de le filmer. Ça peut être rigolo. Par contre, il faut absolument pas que ça te bloque. Ce serait évidemment problématique si tu souhaites filmer un truc et qu'au bout de 32 minutes l'iPhone te bloque. Et évidemment que ce serait très problématique. Mais du coup, je pense honnêtement que ce n'est pas. Je pense que cette anecdote est fausse. Voilà. Pour parler comme les jeunes. C'est parfois chiant en concert. C'est parfois chiant en concert. Les gens qui filment, chacun fait un peu ce qu'il veut aussi pour profiter. Je peux comprendre aussi de l'idée de. Moi, ça m'est déjà arrivé de filmer longuement à l'époque, au début des smartphones, de se dire tiens, j'ai filmé. Après, je me suis rendu compte que je profitais moins effectivement du moment présent et que c'était peut-être plus important d'imprimer des souvenirs dans ma tête que de filmer quelque chose que de toute façon je ne vais jamais regarder. soyons honnêtes. c'est le genre de vidéo ou de photo, enfin surtout les vidéos comme ça, c'est le genre de vidéo, je suis pas sûr que tu les re-regardes vraiment. En plus, c'est des concerts où souvent, tu peux aller chercher sur YouTube, il y a peut-être un enregistrement fait par quelqu'un d'autre. Et les concerts, exactement, ça peut être assis et donc tu filmes sans regarder ton smartphone, je suis assez d'accord. Il y en a qui carrément prévoient direct le trépied et tout et filment ça sans après toucher à leur iPhone. De toute façon, c'est visiblement une fake news, donc on va pas non plus s'éterniser là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant comme idée de réfléchir à cette idée, qu'on va dire. Quelqu'un posait la question de... est-ce que c'est vrai que le groupe BBK va quitter l'Europe ? Alors, le groupe a changé de nom, je crois, mais tu parles du groupe qui regroupe... merci, Kassim. OnePlus, Oppo, Realme. Et est-ce qu'ils vont quitter l'Europe ? C'est un peu plus compliqué que ça. On a une excellente vidéo et un article complet de Titouan sur le sujet. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est vis-à-vis... En fait, ils ont un procès en cours avec Nokia dans plusieurs pays d'Europe. Et quand Nokia obtient un gain de cause, ils sont forcés de retirer tout ou partie de leurs produits, de leur commercialisation... dans le pays. C'est déjà arrivé en Allemagne, ça semble être en train d'arriver en France, et donc il y a l'idée que peut-être ils vont retirer leurs billes d'Europe. Après, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que du coup, ils réduisent leur investissement, mais il y a peut-être l'opportunité pour eux de, par exemple, ce serait peut-être ça la solution envisagée en France, de supprimer Oppo France, donc licencier les personnes, ne plus commercialiser en magasin, voilà. Et en même temps, que Oppo Monde continue peut-être de commercialiser des produits en France, un peu en forme d'import, quoi, finalement. Donc c'est pas encore exactement très clair. On est sur le sujet. Vous avez plusieurs articles de Titouan sur le sujet qui suit de près tout l'avenir d'Oppo pour nous sur Fandroid, qui fait ça très bien puisque pour le coup c'est nous qui avons sorti l'info il y a quelques semaines maintenant, donc voilà, donc je vous invite, est-ce que je peux peut-être vous trouver au moins si je cherche Fandroid Oppo, hop, voilà, vous avez la vidéo, je vous ai mis la vidéo dans le chat, la vidéo qui explique tout. Je vous invite à aller la voir. Je vous invite évidemment à aller la voir après ce merveilleux live captivant, n'est-ce pas ? Voilà. Comme OnePlus au début, pas de magasin, mais des achats en ligne. Alors OnePlus, ça reste toujours que des achats en ligne. C'est justement ce qui fait qu'on a un peu plus de mal à percer la question de leur avenir en France, parce que du coup, ils sont un peu plus difficiles à cerner. Oppo, c'est plus simple de voir que ils disparaissent des magasins. OnePlus, c'est un peu plus compliqué. Du coup, vous vous écharpez sur la question de savoir si c'est grave ou pas qu'un smartphone. Après, c'est un long débat, je trouve, la question de savoir des fois si le smartphone, il fait bien de prendre des décisions à ta place. Je pense que c'est rarement le cas quand même. Il faut souvent que l'utilisateur reste en contrôle. Je pense à un truc que fait l'iPhone qui peut être assez frustrant, c'est l'autocorrection. Il se trouve que j'ai testé iOS 17 et que justement, une des améliorations, c'est que l'autocorrecteur du clavier virtuel est beaucoup plus pertinent maintenant. Donc il y a moins besoin de corriger l'autocorrecteur. Mais il y a encore et toujours ce truc dans iOS 17 tu reviens sur un mot que l'autocorrecteur avait corrigé. Tu corriges l'autocorrecteur parce que tu veux mettre le mot que toi tu avais choisi de mettre et qui était bien un mot qui existe. Et en fait, à partir du moment, entre le moment où tu as fini de taper ton mot, de te recorriger l'autocorrecteur, et le moment où tu appuies sur le bouton envoyer le message, l'autocorrecteur repasse par là et recorrige ta propre correction, alors que tu avais manuellement réglé l'écriture d'un mot. Donc ça peut être assez frustrant sur iPhone, je trouve, comme comportement. C'est le genre de moment où j'ai un peu envie de dire à l'iPhone, non mais en fait, je sais ce que je fais, je sais te demander quand j'ai besoin de toi, autocorrecteur et suggesteur de mots, mais en attendant, voilà, laisse-moi tranquille, en fait. Heureusement, petit spoiler de mon test d'iOS 17, l'autocorrecteur est vraiment beaucoup, beaucoup mieux fait sur iOS 17. Il comprend mieux le sens de ta phrase. Il comprend vraiment mieux ce que tu es en train d'écrire et il arrive à être plus pertinent. Et il y a des grosses erreurs de l'algo qui ont été enfin corrigées. Notamment le... Et alors... C'est en parlant autour de moi que je me suis rendu compte que le problème était généralisé. Le fameux « mais » qui devient « mais » apostrophe S, qui est un problème que j'ai depuis plusieurs mois, depuis de longtemps, un petit moment maintenant sur iPhone, ou que j'avais. Et en fait, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout moi qui étais le seul à avoir le souci, mais que en fait, il y a plein de gens autour de moi qui avaient ce MAI apostrophe S. Oui, voilà, vous tapiez mais, et l'iPhone, corrigez ça en MAI apostrophe S, avec un M majuscule en plus, hein, obligatoirement, ce qui n'avait absolument aucun sens. Sur iOS, oui, tout à fait. Et je suis pas du tout le seul, voilà. Et ça n'avait absolument aucun sens. Et du coup, régulièrement, au milieu de tes phrases, tu avais mais, voilà, qui devenait MAI apostrophe S, alors que le mais est quand même très utilisé en français. Et donc, avec iOS 17, c'est enfin corrigé. C'est enfin corrigé. Et je ne sais même pas, on ne saura jamais exactement ce que c'était que MAI apostrophe S. Vu le nom, enfin, je trouve que ça fait nom d'établissement. Peut-être un nom d'établissement de Apple qui avait été enregistré dans Apple Plan et qui a buggé, parce que ça fait nom, ouais. Enfin, le apostrophe S, c'est le signe d'appartenance en anglais, et avec un M majuscule, ça veut dire que c'est le nom d'une marque ou de quelque chose comme ça. Donc ça donne l'impression que c'est le nom d'un resto ou d'un truc. My Secret est une société de produits pour les cheveux. Ah, bah voilà, ça expliquerait, ça semble correspondre. C'était peut-être l'idée. Mais en tout cas, voilà, donc ça clairement, ça buggait. Ça buggait de ouf. Peut-être que dans un pays, c'est énormément consulté. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un vrai problème sur iPhone et ça a été corrigé avec iOS 17. Donc vivement iOS 17. Je dois avouer que du coup, moi, je teste iOS 17 sur un autre produit que le mien, sur un autre iPhone que le mien, un iPhone de Android. Et j'avoue que je suis assez séduit par iOS 17, même s'il y a des petits bugs, même si tu sens que ça peut être un peu instable. J'ai quand même hâte qu'il sorte du coup pour l'installer sur mon iPhone perso. D'ailleurs, pour rappel, on a fait un tuto sur le sujet. La bêta d'iOS 17 cette année est ouverte à tout le monde. Il n'y a plus besoin d'être développeur. En fait, il faut être développeur, mais maintenant il y a une version gratuite du modèle du compte de développeur qui permet de télécharger les bêtas. Évidemment, faut faire ça en étant expert et en connaissant ce qu'on fait. Et je ne recommande pas l'installation d'une bêta sur un appareil qui sert pour le boulot notamment, ou en tout cas qui sert même, qui est l'appareil principal, quoi. Je ne recommanderais jamais l'installation d'une bêta, mais après chacun fait comme il veut. Mais par contre, j'avoue que j'ai été assez convaincu par ce premier essai sur iOS 17. Il y a quand même pas mal de petites nouveautés. En fait, non, il n'y a pas mal de petites nouveautés. Il y a quelques nouveautés qui font plaisir. Et il n'y a pas vraiment de point négatif par rapport à iOS 16, ce qui fait que du coup, hormis quelques petits problèmes de stabilité, mais parce que c'est une bêta, mais du coup, l'un dans l'autre, je suis plutôt client pour l'instant d'iOS 17. En attendant aussi qu'ils autorisent le sideloading. Alors, WhatsApp gagne une fonction très basique, mais très pratique. On va continuer de parcourir un peu les news, parce que honnêtement, j'ai pas prévu grand-chose de plus comme sujet de discussion. Tu n'installeras pas cette bêta sur ton Galaxy S10e. Bah, de toute façon, le Galaxy S10e, maintenant, il n'est plus mis à jour par Samsung. RIP. Tu as vraiment le Samsung Galaxy S10e, Wendigo ? Bah, du coup, il va falloir peut-être penser à le changer. Tu n'auras plus le droit aux mises à jour de sécurité ni aux mises à jour d'Android à partir de maintenant. J'ai fait la news la semaine dernière. Il a été officiellement... Est-ce que j'ai de l'actualité sur Samsung ? Bah, On peut aller voir. Oui, voyons. De l'actualité sur Samsung. On a une actualité visiblement sur le Galaxy Z Flip 5. Mais sinon, si on retrouve, je suis sûr que si on retourne un petit peu en arrière, du coup, on retombera sur l'annonce de la fin du support. Voilà. Ça a été annoncé la semaine dernière, la fin du Galaxy S10e. C'est pas le seul, hein, toute la gamme Galaxy S10 globalement n'est plus pris en charge par Samsung officiellement, sauf le S10 Lite. Ça fait partie des problèmes. Ça fait, du coup, voilà, c'est abandonné par Samsung, donc ça veut dire que si vous êtes propriétaire d'un Galaxy S10, S10 Plus ou S10e, il est recommandé de penser à commencer à changer de téléphone ou de le bidouiller pour installer une version plus récente. Mais voilà. Est-ce que j'ai quelque chose sur un S23 FE ? Ben là, comme ça me dit rien en tout cas, comme news, mais on a peut-être quelque chose qui va arriver dans la journée. J'ai voulu acheter un S23 Ultra 512Go pour 850€ après réduction ODR et compagnie pour la fête des pères. Ben, lundi, ils ont changé la promo pour la version 256Go pour 920€, mais en offrant les Buds de Pro, sauf que je les ai déjà J'ai déjà des WF Milix M4. Je suis déception d'avoir retardé mon achat. Et après, il y aura d'autres offres. Le S10e est top. Il lui manque juste le zoom et une vraie autonomie. Il avait encore le jack et la SD. Ça sent la nuit compliquée avec la chaleur. Oui, un peu, oui. J'ai dormi par épisode de 1 heure. C'était pas terrible. Désolé, du coup. Désolé pour le manque d'énergie. Peut-être me rétablir un peu plutôt que de m'affaler dans mon siège. Ça va peut-être m'aider aussi. Alors... WhatsApp, je l'utilisais quand les apps à l'étranger coûtaient encore cher. Maintenant, je ne vois plus aucun intérêt. Je peux appeler quasiment partout dans le monde sans surcoût. Après, moi, je trouve tout ce qui est application de messagerie, je les ai sur mon téléphone juste parce qu'il y a des gens aléatoirement, selon les contacts, qui peuvent utiliser et WhatsApp, et Signal, et Telegram, et Messenger. Donc j'ai un peu tout installé. Surtout que des fois, enfin, il y a un truc. Alors ça me l'a surtout fait avec WhatsApp, peut-être un peu avec Signal aussi. Des gens à qui tu donnes ton numéro de téléphone pour qu'ils te contactent par appel ou par SMS et tu ne reçois rien. Et là, il t'explique, ah, mais je vous ai contacté sur telle app, genre sur WhatsApp. Et je suis là, bah oui, mais j'ai pas WhatsApp avec ce numéro. Et les gens ne préviennent pas, enfin, ne te disent pas forcément des fois quelle application ils vont utiliser pour te contacter en partant du principe que tu as forcément toutes les applications. Ce que je trouve assez foufou. Surtout quand c'est des informations sensibles ou quoi. Qu'on puisse les envoyer comme ça par message sans trop vérifier à qui c'est ça part. Puisque pour rappel, si votre numéro, par exemple, on va dire c'est 06 00000, ça peut être votre numéro de téléphone, ça peut être votre numéro pour les SMS et compagnie. Mais si vous n'avez jamais activé WhatsApp, le numéro peut toujours être associé au compte de quelqu'un d'autre. C'était le cas pour mon numéro pro. Du coup, avant que j'installe WhatsApp avec mon numéro pro, il y a des gens qui ont pu m'envoyer des messages dessus et c'est parti vers un autre destinataire, vers une personne random que je ne connais absolument pas et qui était la personne qui avait l'application avant moi, associée avec le numéro, visiblement avant que je le récupère. Mais donc, comme quoi, ça peut être dangereux quand même d'envoyer comme ça des messages sans s'assurer que la personne à qui on parle est bien la personne, est bien le bon destinataire, quoi. Et sans se dire que c'est quand même bizarre s'il répond pas. C'est quand même un peu particulier, quoi. J'utilise un Galaxy A8 2018 et ça fait longtemps qu'il ne reçoit plus de mise à jour. Pourtant, il fonctionne bien. Oui, alors...
Certes, nous, c'est un peu notre devoir quand même de recommander le fait d'utiliser des smartphones ou des PC qui continuent de recevoir des mises à jour de sécurité. Ça reste quand même une recommandation en termes d'hygiène informatique qui est assez importante de dire il faut que votre matériel il soit à jour pour que si des failles de sécurité soient détectées, vous puissiez recevoir les bons patchs, quoi. Donc, et bonjour Zenny. Donc nous officiellement on est obligé de dire vaut mieux essayer quand même de renouveler vos produits pour avoir toujours des mises à jour de sécurité. Après, si les gens préfèrent prendre le risque ou ont un usage de leur appareil, que ce soit appareil mobile ou PC ou quoi, qui considèrent que c'est pas grave s'ils se font hacker ou qu'ils se font pas grave s'il y a une faille de sécurité dont ils peuvent être la victime, c'est à elles et à eux de gérer tout ça, quoi. Mais nous, officiellement, en tant que journaliste, en tant que média, on peut pas se permettre de dire aux gens continue d'utiliser des produits, même s'ils sont plus supportés, ils ok, quoi. Nous, on va plutôt dire par contre, on va essayer de quand même prendre en compte la réalité des choses aussi des gens, c'est-à-dire que si vous devez renouveler votre smartphone, essayez de le renouveler peut-être pour un produit moins cher ou un produit reconditionné qui continue d'avoir les mises à jour. À savoir, même sans mise à jour de sécurité Android, on reçoit toujours les mises à jour logicielles grâce à Google Play, ainsi les applications sont toujours sécurisées. Ça dépend, oui et non, c'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire, et certes, du coup, tu reçois encore une partie des mises à jour, ça c'est vrai, mais par contre, de fait, si tu reçois pas les mises à jour de sécurité Android, tu es quand même exposé à des failles de sécurité, quoi. Pareil, si ton PC est sur une version de Windows qui ne gère plus les mises à jour, c'est le cas par exemple de Windows 7. Aujourd'hui, il n'y a plus de mise à jour ni pour de sécurité ni des mises à jour de fonctionnalités de Windows 7. Si tu as un PC qui tourne sur Windows 7 et qui est connecté à Internet, c'est un danger potentiel, quoi. Après, encore une fois, chacun fait, si vous êtes adulte et compagnie, chacun fait un peu ce qu'il veut avec son produit chez lui. On peut tout à fait choisir de continuer d'utiliser un produit qui n'est pas à jour en termes de sécurité, quoi. C'est une option. Nous, c'est pas ce qu'on recommande, mais c'est une option. Faut juste être conscient des risques. Faut faire ce choix de façon éclairée. Dès que je vais avoir un salaire, je vais avoir entre un S24 Plus et un S23 Plus. Écoute, fais-toi plaisir. Et tu as donné une solution. Oui, bien sûr, Il faut pas venir chez les vrais. La pub tombe bien pour l'article. Ah bon, la pub Orange ou la pub Twitch peut-être. Oui, on a juste les failles de sécurité d'Android même, mais pas des applis. Mais je comprends ton message. Tu as donné une autre solution, les RAM custom. Oui, oui, bah, ça, si vous savez bidouiller, vous pouvez aussi peut-être continuer d'avoir les mises à jour en installant des ROM custom qui sont elles continuellement. Ah oui, celle d'Orange, oui. Et merci à Tovi pour le follow. Les ROM custom, c'est la vie. Bah, c'est un peu mon passé. Ça fait longtemps que j'ai pas installé une ROM custom sur un téléphone. Surtout en plus les téléphones Samsung. Du coup, tu peux perdre en fonctionnalité quand tu installes une ROM custom, notamment tout ce qui est du côté du paiement sans contact et ce genre de choses. Mon S7 de backup est sous Android 12 alors que la dernière mise à jour officielle était sous Android 8. Par contre, ça c'est cool. Hein. Surtout le Galaxy S7, c'est quand même une sacrée. Ça fait partie de ces téléphones, c'est comme le Galaxy S2 à l'époque, qui ont été vraiment, vraiment gérés par la communauté depuis très longtemps, parce que ça a été vraiment un carton en termes de vente, et ça a été un peu le téléphone d'une génération, quoi. Le Galaxy S7, c'est vraiment une masterclass, comme disent les jeunes, n'est-ce pas ? Samsung Galaxy Z Flip 5, pourquoi son écran externe devrait être un régal à utiliser ? Eh bien oui, pourquoi ? Pourquoi ça devrait être un régal à utiliser ? On demandait des nouveaux Samsung tout à l'heure. Eh bien parce que Samsung et Google auraient travaillé en étroite collaboration pour optimiser au mieux certaines applications phares du géant californien sur l'écran externe du Galaxy Z Flip 5. Et donc en gros, on aurait sur l'écran externe, on aurait Google Maps, Message, YouTube, qui aurait le droit à des optimisations. Un banger. Ça c'est vraiment, on a vu Motorola déjà qui a annoncé un téléphone avec dans ce format flip avec un grand écran. Là aussi, ils font ce choix-là. L'écran a l'air un peu moins pertinent, j'ai l'impression, que ce qu'a fait Motorola, ce qui est quand même étonnant de la part de Samsung, d'être en retard sur ses concurrents. Mais donc, vous voyez quand même que l'écran, par rapport à la génération précédente, il est quand même beaucoup plus grand. Et donc, il y aura moyen de probablement regarder des petites vidéos, justement avoir Google Maps effectivement qui s'affiche pour pouvoir peut-être avoir le suivi de l'itinéraire. Hello, Moto. Oui, tout à fait. Mais Motorola qui sont un peu sur le retour avec leur Razer. J'aimerais bien vous le montrer, tiens, pour une fois. Plutôt que de parler de Samsung pour une fois, on va parler de Motorola. Est-ce qu'il faut que je passe par une. Attendez, hop, je peux cliquer sur Motorola, sinon on va éviter de se passer par une recherche Google. Voilà, il fait la leçon Galaxy 7 Flip. Regardez ce joli smartphone avec mes jolis camarades. Il a un écran externe qui est quand même beaucoup plus grand maintenant. Et le design et enfin les finitions et tout, franchement, ont l'air assez cool. Donc c'est le Motorola Razr 40 Ultra. Et il y a aussi une déclinaison moins chère qui s'appelle le Motorola Razr 40. Alors moins cher, ça veut dire 900 euros. Donc ça coûte encore très cher. Mais pour du smartphone qui est pliant quand même, parce que l'écran, voilà, ici au milieu, se plie en deux, c'est. Pour l'instant, on n'a jamais eu de smartphone de ce type-là qui soit vraiment sous la barre des 1000 euros. Et donc là, il se lance avec le Motorola Razr 40 à 900 euros, ce qui commence à devenir un peu plus accessible. C'est pas non plus le téléphone entrée de gamme non plus, quoi, mais on arrive à trouver quelque chose de plus accessible. Du coup, l'écran externe est là beaucoup plus petit, il y a des petites caractéristiques revues à la baisse. Le vrai fleuron, c'est le Motorola Razr 40 Ultra, qui a donc son grand écran externe, là. Et j'aime beaucoup, c'est vrai, le coloris rouge, moi je le trouve très sympa. Voilà. Moi j'aime bien les couleurs, j'en ai un peu marre de téléphones toujours. D'ailleurs, j'ai mon iPhone qui est là, mon iPhone il est bleu. Ça me saoule un peu les smartphones gris, noir, blanc, c'est un peu tristoun. Moi j'aime bien quand les marques font des choix de couleurs un peu plus assumés. Et là pour le coup, on peut dire que c'est assumé, c'est un joli rouge, mais je trouve vraiment le rouge assez éclatant. C'est vraiment très cool comme coloris, et il y a quand même le banger, la fonctionnalité qui tue, c'est quand même l'affichage d'un personnage à l'arrière, c'est quand même, pouvoir vous sourire et tout ça, c'est quand même rigolo, moi ça marche sur moi, et des petits mini-jeux aussi, genre la bille, tu veux, à amener vers l'appareil photo, c'est pareil, ça marche sur moi. Avec une coque, la couleur bof. Je suis aussi quelqu'un qui ne met plus de coque sur ses smartphones. Profiter effectivement du design, juste j'en prends soin. Alors il prend quelques coups, mais honnêtement, sur les quelques années de vie de ce téléphone, je sais pas si c'est moi qui prends assez soin ou quoi, mais j'utilise pas de coque et ça marche bien. Ça marche bien. J'ai jamais pété de téléphone pour l'instant. Sinon les coques transparentes, ouais, mais en fait j'ai envie de profiter un peu de. On claque un pognon dingue pour avoir un smartphone qui. Enfin, c'est pas pour ça qu'on le claque, mais. De fait, quand on le claque, on a on achète aussi le design. Du coup, dans la facture, il y a aussi compris le design avec du métal, etc. Là, bah du coup je préfère en profiter aussi en main et pas avoir une sorte de coque en plastique par-dessus qui casserait un petit peu le design que j'ai payé si cher, hein, malgré moi. C'est pas forcément mon kiff, je suis pas forcément fan du fait qu'on ait décidé que le métal et le verre étaient absolument indispensables sur un smartphone. Moi j'étais assez team plastique, genre les Lumia et tout ça, c'était un peu mon kiff. Ça permettait d'avoir des téléphones très colorés et je trouve que le plastique c'est juste plus léger et c'est plus logique. D'avoir du plastique sur un smartphone, mais on a décidé que Apple c'était bien et que l'aluminium c'était mieux, et donc tous les smartphones utilisent aujourd'hui de l'aluminium et du verre à l'arrière, donc bref, c'est comme ça, mais du coup autant en profiter et donc ne pas avoir une coque en plastique par dessus qui rajouterait aussi du poids d'ailleurs et de l'épaisseur, donc j'en suis content. Et évidemment on sortait couvert toujours, très important. Et fais plus attention et prends quelques coups. Oui, bah des fois ça t'arrive, surtout l'iPhone en plus qui est un peu glissant, ça arrive des fois de le faire glisser. Il a sur les arêtes, j'ai quelques petits coups qui se sont, voilà, peut-être quelques petits impacts, mais dans l'ensemble moi je suis assez content de vivre comme ça, voilà, de vivre le danger, n'est-ce pas, voilà. Mais du coup ce Motorola Razr en tout cas a l'air assez convaincant, et donc c'est quand même à noter. On parle tout le temps de Samsung et des smartphones pliables de Samsung. Motorola a moins d'image de marque, a moins aujourd'hui de force, et son nom est danger. Et oui, j'ai des collègues. Non, mais ça donnait un peu, ça faisait un peu Batman quoi. Son nom est danger. Pam pam pam. J'ai des collègues qui aiment bien faire les pitres sur les photos. Vous verrez ça d'ailleurs dans le test de mon test de iOS 17 qui finira bien par être publié. Vous verrez Il aurait pu faire les oreilles de Mickey, mais les oreilles de Mickey à qui du coup ? C'est plutôt Seranto qui est derrière en train de prendre la photo qui aurait dû faire les oreilles de Mickey, je pense. J'ai aucune idée des parts de marché de Motorola pour 2022, ce serait marrant de regarder. Elles sont assez faibles, je les ai pas en tête, mais c'est plus une marque qui a aujourd'hui beaucoup de force. En fait, c'est une marque qui est encore assez populaire aux États-Unis, beaucoup, mais plus trop dans le reste du monde. Ça reste un historique du secteur, hein. Mais à côté de Xiaomi, à côté de Samsung, à côté d'Apple, ils vendent pas des milliers et des cents, on va dire. C'est comme ça, Sony dans les parts de marché, ouais, bah, c'est des acteurs historiques. Je sais pas, en plus, stratégiquement, j'avoue que je ne connais pas vraiment exactement les raisons pour lesquelles Motorola est toujours sur le marché du smartphone. C'est-à-dire que Sony, ils ont vachement reculé, et maintenant ils sortent que peut-être 2 ou 3 smartphones dans l'année. Et leur idée, c'est avant tout de vendre. Quand ils sortent un smartphone, c'est une sorte de vitrine pour les composants qu'ils vendent aux autres fabricants, notamment les capteurs photo. Ça sert un peu de vitrine ou d'exemple. Donc c'est un peu la raison pour laquelle ils sortent des smartphones, que ce soit en termes d'écran, de capteurs et compagnie. Motorola, j'ai un petit peu plus de doutes, mais je crois qu'en. Je crois qu'aux États-Unis, par exemple, ils sont quand même encore assez populaires, donc il y a peut-être aussi un point de vue très européen que j'ai sur la présence de Motorola. Et après, évidemment, chaque fabricant est bienvenu. Et le bienvenu sur le marché, ça fait plus de concurrence. C'est un peu ce que moi je crains pour le marché européen. C'est le fait que si Oppo parte, Oppo c'est quand même un des meilleurs fabricants de smartphones aujourd'hui. Notre smartphone préféré sur Android en 2022, c'était un smartphone Oppo. Si Oppo part du marché français, moi j'ai un peu peur que niveau concurrence, on se retrouve avec Apple, Samsung, Motorola, et ça serait vraiment dommage quoi. Il faut absolument pas qu'on arrive là. On a déjà perdu d'autres acteurs au fil du temps. On a perdu Nokia, on a perdu. Alors même s'ils sont revenus via une autre marque, mais le vrai grand Nokia, on l'a perdu. On a perdu LG, on a perdu d'autres fabricants. Il y a HTC qui a annoncé son retour, mais bon, c'est quand même pas trop ça non plus. Donc on n'est plus vraiment à la grande époque où. Moi, je me souviens quand même du début du smartphone où, face à l'iPhone, il y avait vraiment 4, 5, 6 grands concurrents qui avaient tous quelque chose d'intéressant à proposer. HTC, Samsung, LG, il y en avait vraiment beaucoup de sélections. Ok, Titon, arrête de me suivre, au secours. Je cherchais quoi comme news J'étais en train de parler d'une marque. Ah oui, HTC. Ah oui, il y a Nothing aussi. Il y a Nothing qui arrive à vitesse grand V, donc ça c'est cool en termes de concurrence. Mais j'aimerais bien retrouver le HTC. Voilà. Le retour en France de HTC, ce qui nous a permis de faire évacuer Titouan de la vidéo. Alors je vais repasser, comme tu veux, mais pas repasser, ça veut rien dire. En partage d'écran plus chat, je pense, pour que vous puissiez voir un peu ce que les gens disent aussi. Voilà. Ouais, 2 modèles sur cette génération pour l'instant. Oui, le Xperia 1 Mark 5 et le Xperia 10 Mark 5 aussi. Pour le moment, chez Sony, oui, ils ont vachement réduit la voilure quand même. Alors, HTC a dévoilé un nouveau smartphone Android et il va bel et bien sortir en France. C'est un retournement de situation qui risque de surprendre HTC. HTC qui était quand même une marque historique du smartphone sur Android, hein, c'est eux, enfin HTC c'est vraiment une grande marque du smartphone, hein, c'est les premiers à avoir lancé un smartphone sur Android, ils font partie des premiers aussi à lancer des Windows Phone, et ils ont accompagné pas mal de changements très, très significatifs du marché du smartphone. Je me rappelle notamment ce moment assez incroyable où HTC commercialisait le HTC HD2 sous Windows Mobile, le HTC c'était le Desire HD sous Android, et le HTC comment il s'appelait, quelque chose 7 sous Windows Phone 7, et en fait c'était globalement trois fois le même smartphone, peut-être le HTC One 7, je ne sais plus, c'était globalement trois fois le même smartphone en termes de caractéristiques, et ce qui faisait que du coup pour les bidouilleurs on pouvait partir du HTC HD2 et installer d'autres ROM dessus. Le M7 c'était HTC aussi, ouais, oui avec les haut-parleurs stéréo, le design était très très bien, il y avait un super design pour l'époque, le son stéréo, c'était aussi les premiers à avoir mis plusieurs capteurs photo avant Apple par exemple à l'arrière du téléphone, donc ils ont été souvent précurseurs ou en tout cas dans l'accompagnement de changements technologiques qui sont vraiment cool. Moi j'ai vraiment un certain goût pour la marque quand même. Voilà, il en parle du tout premier smartphone. Et donc il y aurait le HTC U23 Pro, qui serait le grand retour de HTC sur le marché des smartphones. Donc on aurait un écran OLED Full HD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a un Gorilla Glass Victus. Son écran est percé d'un trou central pour la caméra selfie de 32 mégapixels. Et le lecteur d'empreintes, il se situerait au niveau du bouton d'alimentation sur le côté du téléphone. Bon, il a une gueule à quand même être un petit peu épais. Donc on a un petit îlot rectangulaire avec 4 caméras, un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sous le capot, on aura un Snapdragon 7 Gen 1 avec 8Go ou 12Go de RAM et 256Go de stockage, un lecteur de micro SD et Android 13 embarqué. Et on aurait la préinstallation, une application et une compatibilité avec le casque qui aurait été mixte HTC Vive XR Elite. Donc on aurait une certification quand même IP67, une batterie de 4600 mAh, une charge filaire de 30 watts et une recharge en fil de 15 watts avec un prix attractif de 549 euros et une disponibilité dès le 28 juin 2023. Donc ça sort tout bientôt. Le prix est effectivement assez agressif. Après, il y a plein de questions qui se posent. Le nombre d'années de mise à jour d'Android, par exemple, et même ce que ça va donner en termes d'usage. Malheureusement, j'ai quand même peur que ce soit... Enfin, on dit que c'est un HTC, mais est-ce que c'est vraiment un smartphone HTC ? C'est-à-dire que j'ai un peu peur que ce soit quand même un smartphone acheté sur un catalogue et qu'il n'y ait pas vraiment d'ingénieur qui travaille dessus. Mais 549 € pour les caractéristiques annoncées, je trouve pas ça déconnant. Donc, à voir, j'ai hâte de voir ce qu'en pense la presse. Mais je trouve ça pas déconnant. Et sur ce, je vais rapidement parler de WhatsApp parce que j'avais lu le titre, donc je vais juste au moins lire le chapeau parce que ce live touche à sa fin. Sur Windows, certains utilisateurs inscrits à la bêta de WhatsApp découvrent l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité, le partage d'écran lors d'un appel vidéo. Donc ça arrive sur WhatsApp, donc c'est plutôt cool. Le partage d'écran, c'est pratique pendant les réunions, pouvoir parler d'un document en commun. Et donc ça arrive dans l'application WhatsApp pour Windows, donc ça c'est plutôt une bonne chose. En France, les opérateurs télécoms poussent surtout sur certaines marques et non l'ensemble de leur catalogue. Bah ça dépend, ils poussent vers les marques qui se vendent et après ils poussent vers les marques qui investissent dans des espaces de vente et dans du marketing, etc. Donc il n'y a pas de miracle, quoi. Enfin, les opérateurs télécoms, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à pousser une petite marque pour le principe de pousser une petite marque. Eux, ils sont là pour vendre du forfait, ils sont là pour vendre du téléphone. Tu aurais plutôt dit 499 ou 524 pour un prix un peu plus agressif. Ouais, après, c'est sûr que par rapport à Xiaomi, c'est peut-être un peu moins agressif, mais je sais pas, la fiche technique a l'air plus complète que ce qu'on peut trouver sur un Xiaomi qui va souvent plutôt miser sur les performances ou sur l'écran. Et les curseurs ont l'air assez équilibrés entre appareil photo, écran, performance, design, etc. Donc, faudra avoir les finitions. Et puis, surtout, moi, c'est l'interface qui m'intéresse. Si c'est une interface proche de celle d'Android, est-ce que c'est proche de celle de Google ? Est-ce que c'est une interface HTC ? Je me pose la question. Et le nombre d'années de mise à jour aussi, ça va être intéressant. Moins c'est cher, mieux c'est, oui. Voilà. Mais ce live touche à sa fin, heureusement, parce que je vais bientôt m'endormir, j'ai l'impression. Le mec n'a aucune énergie, c'est ouf. Je vais vous proposer un petit raid. Je vous proposer un petit raid. On va aller voir Velvet Shadow. Et ouais, je pense que c'est parmi les gens qui sont en live, c'est ce qui me semble. Ça fera. Vous allez lui dire bonjour de ma part. Voilà. Il faut vraiment que je quitte ce live. J'ai une absence et j'arrive pas à bien conclure correctement cette émission. Déjà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là dans le chat et présent pour animer ça mieux que moi, parce que vraiment, il va falloir que je dorme. Premièrement. Deuxièmement, je vous rappelle que c'est une matinale qui a lieu tous les matins, du lundi au vendredi, mais surtout du mardi au vendredi, visiblement, entre 9h30 et 11h. On a aussi des émissions l'après-midi. Alors, cette semaine, c'est un peu particulier parce qu'on a des travaux, en fait, dans notre studio. Mais on devrait quand même avoir une petite émission à vous proposer jeudi, en principe. On va en tout cas essayer de tout faire pour, même si ce sera peut-être pas dans le studio. Vous avez aussi des belles vidéos en préparation sur YouTube, des beaux articles sur Fandroid qui sont en préparation. Donc je vous invite à aller suivre tout ça sur nos réseaux sociaux. Et je vous invite à rester pour le raid. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Et merci encore à toutes et à tous. Voilà, les bisous, au revoir, au revoir.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.